Bonjour Françoise Trossard et la belle équipe, en piste pour un numéro spécial des papous, papous d'un jour, papous toujours. Des jeux d'écriture proposés à des élèves de trois établissements de Paris et sa banlieue, des plus grands en première aux plus petits en sixième.
J'aime dévorer les livres et les cuisiner. Accessoirement, du sauté de poèmes peut être bon, avec une passée de phrases affirmatives et un peu de bière, juste une dizaine de bouteilles. Oh, sans oublier le coulis d'adjectifs, bien sûr, et la grammaire, tant qu'on y est. Non, la conjugaison, c'est mieux, surtout pour ceux qui ont écrit avant. Vous en avez besoin. Moi, je préfère les SVT. Allez faire Masterchef pour aller gagner haut la main avec cette recette. J'y cours.
Un numéro des papous à télécharger pendant un an, à réécouter 1000 jours sur franceculture.fr. Merci de votre fidélité aux papous. Et bienvenue à ceux qui nous écoutent pour la première fois. Papou d'un jour, papou toujours. Ou peut-être, on ne naît pas papou, on le devient. Ils ont entre 11 et 16 ans. Ils vont en classe à Paris ou à Saint-Denis. Toutes les classes sont représentées, de la sixième à la première, accompagnées par leurs enseignants, Marie Gauthier-Fort, Lucille Beyacourt, Rachida Hubert pour l'école alsacienne, Mylène Bricou pour le collège Georges Brassens, Juliette Marie et Florine Leplâtre pour le lycée Sugère. Le vendredi 28 novembre dernier, pour fêter les 30 ans des papous dans la tête, ils étaient 70 élèves réunis à la maison de la radio, 70 volontaires pour participer à l'atelier d'écriture des papous dans la tête, avec pour animateurs des écrivains, bien sûr, de la bande des papous, Eva Almassy, Patrick Beignet, Jacques Jouet, Hervé Letellier, Patrice Minet, Patrice Delbourg et Jean-Bernard Puy. Et pour consigne, s'amuser avec l'écriture. En fin d'après-midi, chacun a lu à haute voix ce qu'il avait écrit et les élèves de chaque groupe ont choisi un ou deux textes illustrant au mieux le jeu littéraire papou auquel ils avaient été soumis. On retrouve aujourd'hui les 12 élèves choisis. Anna, Lydie, Clara, Marcel, Elsa, Maïna, Victoria, Cindy, Elliot, Mado, Adèle et Louis. Quant à l'illustration musicale de l'émission, elle a été décidée par les élèves du collège Georges Brassens.
Cet étrange voyage. Je ne sais par quel jeu du destin, ni par quelle folie de la vie, mais je me suis retrouvé là, devant toi, sous un arbre, à te conter un de ces triomphants textes soporifiques de Sartre. N'ayant retrouvé ma piste, qui ne veut finir, je sens l'apocalypse venir. Mon cœur se fragmente, mais c'est seulement pour supporter cette attente.
J'ai peur de Monsieur Malabar. Il a croqué la Tour Eiffel. Il a mangé tout le dernier étage, même le relais radio, avec les micros et les scripts, même les toilettes, et j'avais pas tiré la chasse.
Dis-moi, Rousseau, je suis Fontaine en l'honneur de Rousseau, la chose en dessous de toi que tu n'as jamais regardée. N'as-tu pas honte de faire de l'ombre aux autres objets en dessous de toi? Dis-moi bien qu'avant que tu n'arrives, je brillais aux yeux des passants. Et aussi.
Les papous dans la tête!
Non, allez, arrêtez de regarder ce que font les autres, parce que sinon, vous n'arriverez jamais. Chien que nous, quand on fait ça au papou, on le fait en 20 minutes. Hein.
On a proposé un projet pour venir ici écrire un texte en jouant avec les mots pour l'émission Les Papous dans la tête. Et donc, du coup, on a tout postulé en présentant un texte avec 10 mots imposés. Et on a été prises.
Voilà, et il y a des classes de première, de sixième, de cinquième et de seconde.
Voilà, ça nous fait très plaisir d'être là, en tout cas.
Donc on se retrouve, on s'était vu le vendredi 28 novembre au cours d'ateliers d'écriture avec les papous, pour les papous. Et on retrouve les textes, en quelque sorte, qui ont émergé de ces ateliers, qui ont été choisis par tout le groupe, hein, aussi bien les autres élèves que les glorieux papous animateurs. Par exemple, Patrice Minet. Alors, Patrice Minet, vous aviez un bon groupe, hein, de l'école alsacienne.
J'avais le meilleur groupe.
C'est vrai.
Mais oui, mais oui.
Et vous aviez des sixièmes, cinquièmes.
Oui, ils ont été absolument fantastiques.
Oui.
Je leur ai dit un petit peu comment ça allait se passer, c'est-à-dire qu'ils allaient écrire.
Ouais.
Ensuite, je leur ai demandé de choisir un mot.
Mais un mot chacun ?
Un mot chacun.
Oui, d'accord. Parce qu'ils étaient 10, donc 10 mots.
Ah, ça, j'ai pas compté. Ils étaient beaucoup. Et ensuite, j'ai sorti des marshmallows.
Ouais, c'est votre botte secrète.
Ouais, c'est ma botte secrète. Et je leur ai dit, maintenant, vous allez, quand vous lirez votre texte,
ouais,
vous mâcherez en même temps un marshmallow.
C'est pour
un peu comme ça que ça s'est passé. Hein.
À articuler, c'est ça ?
Non, c'était parce que c'est bon, les marshmallows. Voilà, alors après, je leur ai dit, vous avez très peu de temps pour écrire.
Oui.
Comme dans l'émission, comme on fait ici,
ouais,
dans ce studio.
Ouais.
Et ensuite, je les ai vus écrire à toute blinde,
mm-hmm,
vraiment bâcler leur texte.
Non.
Et puis après, avec les marshmallows, on a fait la lecture.
D'accord. Alors, il y a Anna... Il y a Lydie. On se connaît un peu, je peux vous dire, tu ?
Oui.
Oui. Qu'est-ce que tu as donné, toi, comme mot ? Tu te souviens, Anna ?
J'ai dit araignée.
Araignée, oui. Et après, Lydie ?
Moi, j'ai donné le mot mollusque.
Mollusque.
Oui, c'était assez zoologique.
Oui, c'est ça, en fait, c'est le premier mot qui a déterminé la nature des suivants, non, un petit peu ?
Non.
Non.
Non, 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 ils avaient tous écrit leurs mots sans se concerter sur leur papier.
Tu es en quelle classe, toi, Anna ?
En 6e 3.
Tu es venue à cet atelier des papous comme ça, pour sortir, parce que c'était sympa, ou parce que tu aimes écrire ?
Parce que j'aime beaucoup écrire.
Ouais.
Et tu vas passer en 5e, tu crois ?
On verra.
Et toi, Lydie ?
Moi, je suis en 5e 4.
Ouais.
J'aime bien écrire. J'aime bien imaginer des choses. Par contre, je n'aime pas vraiment écrire à la main. Mais sinon, j'aime bien inventer des histoires et après les noter. Je trouve ça plus simple de taper à l'ordi.
D'accord.
Et tu vas passer en 4e, du coup ?
Je pense, ça va, je suis bonne en classe.
Bon, Minet, vous voulez bien nous lire la liste des 10 mots ?
Oui, mais bien sûr que je... Non, mais non, mais je ne peux pas vous la lire, je ne l'ai pas.
Voilà, c'est Lydie et Anna qui vont les lire.
Mollusque, naturel, australopithèque, noir, espace.
Anna.
Créature, émerveillée, vent, sang, naturel.
Jean-Bernard Puy, si vous aviez eu ces mots pour jouer, vous auriez fait quel genre d'histoire ?
Je sais pas, je serais parti au courant, je crois. Non, mais c'est vrai qu'il y a tout de suite une ambiance un peu fantastique.
Ouais. Est-ce que Minet vous a indiqué un style d'histoire à écrire ou vous étiez complètement libre de choisir ?
Oui, on était libre de choisir un peu.
Mm-hmm.
Non, ce que je leur ai demandé, entre autres, c'est de s'amuser.
Ouais.
C'est-à-dire de ne pas faire ça comme si c'était un devoir, mais comme si c'était un plaisir.
Mm-hmm.
Voilà.
Lydie, est-ce que tu as donné un titre à ton texte, à ton histoire ?
Oui, je l'ai appelé Une journée d'horreur.
Ah ouais ?
J'ai pas trouvé l'après-midi spécialement horrible, mais dans mon texte, c'est horrible.
Et quel mot t'a donné envie d'écrire une histoire horrible ? C'est l'araignée ? C'est le mollusque ?
Pas spécialement, c'est que Patrice Minet nous avait proposé deux façons de faire. Il y en a une, je me souviens plus, mais il y en a une, il nous avait donné des débuts de phrases.
Ouais.
Et c'était des phrases où c'était un peu catastrophique, l'histoire.
Ah,
donc c'est ça qui m'a fait faire un texte un peu horrible.
Mais c'est ce que tu avais envie d'écrire aussi, peut-être.
Oui.
Hein, bon, allez, on y va.
Une journée d'horreur. Quelle honte ! Mon imbécile de frère australopithèque a renversé un grand verre de purée de mollusques sur la tête de Monsieur Patrick Beignet.
Ah ! Qui est avec nous, Patrick ?
J'ai enfin un rôle dans une histoire. Ça m'a ravi.
C'est un scandale. Un immonde trou noir de l'espace a enlevé tous les auteurs des papous dans la tête. Les bras m'en tombent. Une drôle de créature, ressemblant à une araignée, a ramené tous les auteurs. Il y a de quoi hurler. Une cascade de sang m'est tombée dessus. Ça fait frémir. Un vent terrible a fait s'envoler toutes les rédactions des élèves. C'est une horreur. Une créature, mi-chameau, mi-mollusque, est entrée dans la pièce et tout le monde l'a accueillie comme si son arrivée était naturelle. On a le vertige quand on sait à quel point les élèves étaient émerveillés devant ce monstre. Alors là, ça suffit. La drôle de créature est revenue et a dévoré tous nos chamallows. On est accablé par cet australopithèque complètement maboule dont le seul don est de renverser des tables. On a du mal à croire que les réunions des papous sont toujours aussi mouvementées à cause de ces araignées, mollusques et autres trucs. Et comme si ça ne suffisait pas, le trou noir est revenu et m'a aspiré. Pff, quelle journée!
Et pas loin de la vérité, en fait.
Oui, sauf qu'au papou, il y a rarement des chamallows ou des marshmallows.
Oui, mais il y a beaucoup de mollusques.
Côté... c'est le côté positif, quand même, de cette journée horrible, non, Lydie?
Oui.
Hein, le marshmallow. Alors, Anna, bah, figure-toi que c'est à toi. Et tu as un titre?
L'araignée de l'espace. Quelle honte! Envoyer une araignée dans l'espace! C'est un scandale! Pourquoi ne pas réexpédier des singes ou des chiens? Les bras m'en tombent, elle ressemble à un monstre noir. Quelle créature non naturelle! Il y a de quoi hurler! Cette rumeur va partir en tous sens, à tous les vents. Cela fait frémir de voir de tels mollusques. C'est une horreur de voir vos faces idiotes émerveillées en voyant cette chose voguer dans le vide intersidéral. C'est inacceptable. Croyez-moi, messieurs, il y aura du sang sur les étoiles quand je vous aurai fichu dans une fusée et que vous baladerez en orbite autour des anneaux de Saturne. Et comme si cela ne suffisait pas, au lieu de trouver un remède, vous avez trouvé une nouvelle maladie que vous avez attrapée, la bêtise. Moi, scientifique réputé, je changerai vos cerveaux d'australopithèque en cerveaux surdéveloppés. Bravo.
Ah non, mais il y a une violence chez Anna.
Ah, ça fait du bien, hein.
Ah, ça fait du bien,
du
oui.
Du sang sur les étoiles.
C'est beau, hein.
Ah oui.
Ben, bravo. Est-ce que ça vous donne envie de continuer à écrire des petites histoires comme ça?
Oui.
Oui. Est-ce que vous avez envie d'embarquer Patrice Minet à l'école alsacienne?
Pourquoi pas.
Mais moi, je veux bien y aller, hein.
Alors, il faut lui prévoir de la choucroute, hein. Surtout à l'école.
Surtout du sylvanaire.
Et des marshmallows. Alors vous, Jean-Bernard Pruy, vous aviez un groupe du lycée Sugère.
Le lycée Sugère.
Voilà.
Saint-Denis, je crois.
Saint-Denis. Et vous aviez des élèves de seconde et de première, je crois.
Hein, que de seconde, mais entre-temps, il y en a qui, grâce à moi, ont grimpé de classe et sont en première.
Voilà, c'est le cas de Victoria.
Oui.
Elle est arrivée en septembre, elle était en seconde, et maintenant elle est en première. C'est formidable, non?
Oui.
Alors, raconte-moi un petit peu ton histoire.
Je viens de la Moldavie.
Oui.
C'est un pays à l'est de l'Europe.
Ça, c'est gentil de nous le citer. Parce que on n'est pas toujours très sûr.
Capitale.
Chisinau.
Chisinau. Travaillez votre accent, Jean-Bernard.
Chisinau.
Je suis arrivée en septembre. Normalement, j'ai dû être dans la seconde, mais... étant donné le fait que les niveaux d'enseignement en Moldavie est un peu trop pressés, on fait beaucoup de choses à la même fois.
Ah oui?
Et c'est pour ça que mes professeurs ont décidé que j'ai les niveaux plus grands.
Ah, voyez-vous ça, donc tu avais un niveau bien supérieur à ceux avec qui tu t'es retrouvée. Mais pourquoi vous commencez l'école plus tôt? Non, on vous apprend plus de choses.
Oui, c'est juste qu'on a... beaucoup des autres métiers,
oui,
à faire.
Donc, vous travaillez beaucoup, beaucoup, beaucoup.
Oui.
Et tu parlais déjà français, parce que tu as un très, très bon français, quand
merci.
Même. Hein.
Ouais. J'ai fait des cours de français avant. J'ai fait 3 années de français intensif.
Ouais.
Français excessif.
Intensif.
Intensif.
Et donc, tu arrives de Moldavie et tu te retrouves à Saint-Denis. Il me semble savoir, enfin, quelqu'un me l'a glissé dans l'oreille, qu'en Moldavie, on parle le roumain. C'est
vrai.
Oh. Ah, on m'a donné une bonne information.
Et le russe aussi, parce qu'il y a une minorité russophone. Hein.
Oui, mais la langue officielle, c'est le roumain.
Bon, alors, je ne sais pas en tout cas si en roumain, on dit tu ou vous. Je vous dis tu, je te dis vous.
Vous pouvez me dire tu, c'est
d'accord.
Plus confortable.
Exactement, oui. Alors, Victoria, tu t'es retrouvée avec Jean-Bernard Puy, qui a une
pas
certaine
bol.
Personnalité. Puis d'autres, évidemment, d'autres élèves. Et Jean-Bernard Puy, il vous a donné une consigne pour jouer, pour écrire des textes en s'amusant.
Deux
consignes.
Oh, oui.
C'est-à-dire au choix ou les
ils
deux...
Ils ont d'abord choisi un mot chacun, ils étaient 7.
Oui.
Donc, 7 mots qui sont miséricorde, saperlipopette... Amitié, Anis, qui est le prénom d'ailleurs d'un de ceux qui étaient là, Sugère, le nom de leur lycée,
ouais.
Caricature, Et framboisins. Les framboisins doivent être les habitants de Framboisie.
Framboise. C'est le quartier à côté duquel.
C'est le quartier où est le lycée Suzer. Ouais.
Ah, très bien, très bien. Quel mot tu avais choisi, toi, Victoria?
J'ai choisi caricature. Et c'est pour un très bon motif. C'est juste qu'avant de venir, j'étais en train de dessiner des petites choses.
Oui.
Qui après m'ont donné l'idée pour le texte.
D'accord.
Et donc, la deuxième consigne, c'était que d'écrire un texte en 26 lignes.
26, pourquoi 26? Ah, les 26 de l'alphabet.
Voilà, et qui commence, chaque ligne commence par A, B, C, D, ainsi de suite.
D'accord.
Voilà, c'est une manière d'écrire très facilement. Alors, on n'est pas obligé de remplir toute la ligne,
hein,
mais il faut que chaque ligne ait une lettre de l'alphabet dans l'ordre.
D'accord, donc...
Et Victoria a fait un texte très, très sombre, très beau, enfin, mais sombre.
Oui, bah un petit peu comme ceux de Anna et Lydie.
Ah non, eux, c'est la rigolade. C'est non, là, très, assez réaliste, rêveur, mais sombre, grave.
Plus oui, on est dans notre époque, c'est ça?
Oui.
Oui, bon. Tu peux donner un titre à ton histoire?
Non, parce que j'ai pas tout à fait y pensé.
Oui.
Je pense que je peux commencer tout d'un coup.
Voilà, d'accord.
À Nice, 19 ans. Imaginez une chambre petite, obscure. Il y a de la musique. Bretagne 2013. Il pense. Imaginez un lit tout couvert en revues, caricatures et d'autres choses de son enfance. Des cigarettes jetées partout. Revenons-y ensemble. Deux enfants, Anis et Vincent, Saint-Denis 2003. Imaginez un corps du quartier Franck-Moisan. Des bâtiments grands, gris, et une amitié naïve entre deux gamins. Ils rigolent. Ils regardent des revues avec leur héros préféré. Innocents. Joyeux. Personne ne les empêche. Boum. Un coup de feu. Un homme tout habillé en couleur kaki s'approche. Il est énorme. Il parle. C'est incompréhensible pour Anis. La seule chose qu'il voit, c'est Vincent. Il sanglote. L'homme demande son nom. Anissement. Il est un enfant de 9 ans avec son meilleur ami à côté. Mort. Ce n'est pas clair. Rien n'est clair. Qui? Pourquoi? Où? Imaginez son père. En courant, il voit son fils. En pleurant. Rien n'est clair. 2013. Anis est toujours là. Il appelle Quentin, mais personne ne répond. Il se retrouve tout seul, encore une fois. Il rit, il comprend. Sa perlipopette, tout était sous ses yeux. Sa vie, son lycée, sa maison de la rue Suggère. Imaginez l'uniformité. Anis comprend. À 9 ans, Vincent est mort. 10 ans ont passé. Personne n'est coupable. Il boit un verre de whisky. Sa tête commence à voler. On entend de la musique à la radio, du xylophone. Anis s'en va. Son corps reste sur son lit. Il y pense. Maintenant, imaginez deux garçons. L'un est mort. L'autre vit. Une miséricorde. Zorro n'aurait pas fait mieux. Vincent lui pardonnera. Adieu. On se reverra.
Oui, effectivement. C'est poignant quand tu imagines des histoires. Elles sont toujours aussi sombres, aussi noires, parce que je suppose que tu écris un petit peu pour toi, non?
J'ai un journal.
Oui.
Mais normalement, je suis une personne très positive.
Ce qui est toujours amusant. Ce qui est toujours étonnant, c'est quand, avec ce jeu, avec ces consignes, c'est d'arriver à W.
Ah oui, évidemment.
Il y a K, W, Z.
Oui,
et c'est vrai qu'à force de faire jouer à ça, Zorro revient souvent. Hein. Il y a Zéro et Zorro.
Bah oui.
Mais bon, parce qu'il y a un verre de whisky qui arrive. C'est vrai qu'on peut se demander.
Ouais.
Mais si on le lit, elle ne l'a pas lu en scansion, vraiment. Elle l'a lu très bien. Et donc... quand ça se mélange, comme ça, on repère
elle l'a lu dans le sens de l'histoire. Mais c'est un beau texte, Victoria. Qu'est-ce qu'elle en pense, Juliette, votre enseignante, votre prof de français, Juliette Marie?
Oui, je trouve que c'est un très beau texte, étonnant, avec une rythmique différentes. Parfois, elle propose une séquence un peu longue et tout à coup, ça s'accélère.
Allez. Oui. Tu aimes bien écrire ? Tu voudrais écrire plus tard, non ?
J'ai aucune idée de ce que je veux faire,
ouais.
Mais ce n'est pas l'écriture. Parce que je pense que l'écriture, c'est quelque chose de trop complexe. Comme presque toutes les choses ont été déjà...
Dites, écrites.
Écrites, oui. Ouais. Et trouver une nouvelle manière d'écriture, un nouveau sujet, c'est tout à fait difficile.
Ah bah oui, mais alors, qu'est-ce que tu veux ? Regarde autour de la table, Jean-Bernard Pouy, Jacques Chouet, Patrice Minet, Patrice Delbourg, Patrick Beignet, Isée Hervé-Letellier, Val Massy, ils écrivent et ils se posent cette question. Ils ont le doute aussi, non, Jacques Chouet ?
Alors, pour la semaine prochaine, vous allez nous monter ça à 200 pages.
C'est une façon de voir la vie, un peu plus grande qu'un pays, un destin, un regard. C'est de la musique et des cris, un pour tous et tous réunis, un chemin, une histoire. Mi vida, mi sabor, mi fuerza, mi amor, color gitano. Ma raison, mes valeurs, ma maison, ma couleur, color gitano. Gitano, el color de mi cielo.
On passe au collège Georges Brassens. C'est alors le collège Georges Brassens qui est dans le 19e arrondissement. Je le connais pas personnellement, je n'y ai pas fait mes études, mais je le connais parce que j'ai reçu par la poste il y a 6 mois à peu près un petit document qui était fabriqué par Mylène Bricou, qui est enseignante et bibliothécaire au Collège Georges Brassens, et qui était constitué de textes écrits à l'imitation de nos textes à nous, des papous dans la tête, et faits par les enfants qui fréquentent l'atelier d'écriture de Mylène Bricou. J'aimerais bien que vous nous en parliez un tout petit peu de cet atelier, Mylène.
Oui, bah donc bonjour. En fait, cet atelier existe depuis 4 ans, depuis que je suis au collège Georges Brassens. Oui. Et sans avoir de formation littéraire, j'ai toujours été passionnée par la littérature, mais on va dire décalée. Donc
les papous.
Voilà, fidèle aux papous. Papous d'un jour, papous toujours, il n'y a pas de doute. Et donc j'ai voulu transmettre ce virus à mes élèves.
Oui.
Et puis, ben, comme ça arrive assez souvent, on essaie de viser très haut et les élèves nous dépassent.
Ah.
Voilà.
Et donc, oui, parce qu'il y avait des textes formidables.
Voilà.
D'ailleurs, je vous ai téléphoné tout de suite.
Et j'étais très étonnée, agréablement étonnée. Et j'ai donc des élèves des 4 niveaux d'âge, des 6e, cette année un peu plus de 5e, 4e et 3e. Et certaines, dont Maïna, ici présente... était là quasiment depuis le début du club Nouvelle.
Pilier de l'atelier d'écriture papou. Et moi, j'étais très touchée parce que cette brochure de texte nous est dédiée à tous les papous. Donc, ça fait très plaisir. Alors, vous, Hervé Letellier, vous avez travaillé donc avec Maïna et avec Elsa pour cet atelier d'écriture papou.
Voilà,
ça s'est bien passé, dis-moi Elsa, c'était bien ?
Oui.
Il est sympa.
Il est très sympa.
Et alors, qu'est-ce que vous leur avez imposé comme contrainte ?
Alors, j'aurais imposé un texte qu'on appelle un texte à squelette. C'est-à-dire un texte dans lequel on a des débuts de phrases, des trous dans la phrase qu'il faut combler.
Ouais.
Et c'est un dialogue, en fait. Une petite pièce de théâtre avec 2 personnages.
Et chaque élève doit écrire
alors,
un des
voilà,
2 personnages.
Ce qu'on va écouter, finalement, c'est 2 conversations.
Oui.
Qui sont structurés sur le même squelette. Je vais vous donner les éléments du squelette pour que vous compreniez bien.
Oui,
ça commence par « Bonjour, je suis ».
Oui.
Là, vous avez une grande liberté. « Vous êtes bien ?»
Oui.
Et ensuite, la personne répond « Oui, mais ». Et on peut développer. « C'est dommage parce que… » On continue.
Oui.
« Je n'ai pas envie de perdre… » Ou « Je n'ai pas envie de… » Et là, la personne complète.
Oui.
« Même si… » Ah, si. Eh bien, allons-y, commençons. Aïe, c'est parce que, moi, le tout, c'est de. Bien sûr, vous pensez que, tant pis, Voilà.
Et donc, c'est vous qui avez trouvé tout ça.
Mais quel fou, hein. Travail.
Ah non, mais quel travail.
C'est un travail de dingue.
C'est un travail énorme. Comment vous auriez complété, vous, Miné, vous pensez que...
Ben, je pense que oui. Oui.
C'est tout, vous auriez dit quoi derrière?
Ah, mais je sais pas, moi, je suis pas aussi fort qu'eux.
Ah oui?
Non, mais il aurait fallu que je puisse réfléchir un petit peu, là.
Ah oui. Ah.
C'est plus difficile que le jeu du téléphone.
Non.
Il en manque davantage.
Oui, mais c'est beaucoup plus libre, en fait, que le jeu du téléphone. Il y a beaucoup moins de contraintes. On n'est pas forcé de... Là, justement, dans le jeu du téléphone, on a une conversation dont il faut trouver la seconde.
Ouais.
Mais là, on a plutôt une grande liberté au niveau sémantique. Donc, on cherche l'endroit où on veut aller. Vous allez voir que les textes qu'on a en résultat sont très différents l'un de l'autre et...
J'aimerais bien demander à Maïna d'abord en quelle classe elle est.
Je suis en troisième.
D'accord. Et tu as quel âge?
Et j'ai 13 ans.
13 ans, d'accord. Est-ce que cette contrainte t'a semblé facile?
En fait, ça peut être assez facile ou alors assez difficile si on ne trouve pas tout de suite l'idée. Mais, une fois qu'on a trouvé, ça part assez vite en fait. Mais si on n'est pas satisfait de ce qu'on trouve tout de suite.
Il faut trouver le fil.
C'est-à-dire que, non, c'est pas tellement ça. C'est dès qu'on a trouvé les deux personnages du départ et qui sont bons, ça marche très bien. Et en fait, là, on a deux exemples où les deux personnages de départ sont tellement bien trouvés que ça marche très, 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 très bien.
Bon, ça a été facile de choisir dans le groupe Maïna et Elsa d'élire ces deux textes.
Il y avait beaucoup de résultats intéressants. La question, c'était que ces deux-là étaient les plus emblématiques du détournement de la contrainte.
Ah.
C'est-à-dire que la contrainte était totalement respectée,
mais
en même temps, elle était détournée, dans la même direction d'ailleurs. C'est-à-dire que ce sont des objets qui ont été choisis.
D'accord.
Donc ce sont des résultats de... Ça ressemble un petit peu à nos
travaux, nos états de choses.
À nos états de choses, mais une version dialoguée.
Très bien. Alors, on écoute, Maïna, vous avez quelque chose à dire, Miné?
Non, moi je suis très, très... je suis très content de la façon dont ça se passe.
Allez, Maïna.
Bonjour, je suis un fichier. Vous êtes bien le disque dur? Oui, mais je suis plein à craquer, je suis désolée. C'est dommage parce que je ne prends pas beaucoup de place. Vous ne perdriez rien à m'accepter. Je n'ai pas envie de me fatiguer pour rien. Il n'y a plus de place, un point c'est tout. Même si je supprime d'autres fichiers, ils sont moins importants que moi. Ah, si vous supprimez quelques fichiers, ça va. Mais vous avez intérêt à faire vos preuves. Sinon, vous subirez le même sort et serez envoyé dans la corbeille sans état d'âme. Allons-y. Je vous promets que vous ne le regretterez pas. Aïe, il y a un problème. Je n'y arrive plus, je ne pense plus. C'est parce qu'il y a une coupure de courant. Nous serons bientôt éteints. Bien sûr, je comprends. Mais vous n'allez pas être supprimé? Si, mais nous ne pouvons rien faire. Adieu, je serai reconstitué.
Ah, c'est très très bien. Mais c'est très malin. Eh oui, c'est évident.
Puis là, quand même, on comprend.
En plus,
le contexte de départ n'était pas très clair.
Oui. Moi, tu n'avais pas compris en tout cas.
Ben, moi, je l'ai entendu ce matin par mon propre disque dur.
Il vous a dit ça,
c'est très réaliste, très très réaliste.
On sait que tu aimes écrire, puisque tu fréquentes l'atelier de Mylène et que tu as écrit pour les Papous. Tu aimes bien lire aussi, parce que ça marche pas forcément ensemble.
Oui, beaucoup.
Ouais. Qu'est-ce que
tu
lis
en ce moment? Pas mal de fantasy en général, comme avec un peu de magie des fois, enfin voilà.
Je rêverais d'en écrire.
Vous auriez un succès fou,
Hervé. Oui. Des trolls, des monstres.
C'est bien. Alors, Elsa, tu passes en deuxième. C'est pas toujours simple, hein, parce qu'elle a été très brillante, Maïna. Tu passes même en seconde position.
Tu es en troisième aussi, donc.
Non, justement.
Donc tu es en quatrième et tu passes en deuxième position. Ouais.
En quatrième, tu penses que tu vas passer en troisième?
Oui.
On est rassuré pour toi. Est-ce qu'il y a parmi toutes ces phrases contraintes, ces débuts de phrases contraintes, il y en a une qui a déclenché l'idée de l'objet chez toi?
La première.
La toute première, c'est-à-dire?
C'est-à-dire, bonjour, je suis, vous êtes bien.
Voilà. Et tout de suite, tu savais ce qu'il fallait faire. Tu n'as pas été obligé d'aller jusqu'à la fin à vous penser.
Il faut dire aussi que j'aurais un peu interdit. Parce que je pense qu'il ne faut pas lire l'intégralité du texte.
Ah, d'accord.
Je leur ai demandé de commencer et pas regarder tout le texte de manière à être contraint par la première phrase, justement.
Oui.
Et quel que soit le choix qu'ils faisaient, de découvrir ce qu'il fallait remplir après. Parce que sinon, on se laisse guider par une fausse bonne idée au départ. Et, et comme ça, c'est le bon choix. C'est faire un choix juste sur la première phrase pour que ça marche.
D'instinct. Une impulsion.
Et ça marche très bien.
Et de ne pas revenir en arrière, surtout. Ah oui, il était quand même un peu sévère. Hein,
ouais. Mais juste.
C'est sympa, mais juste. Mais juste, oui. Vas-y, Elsa, tu as donné un titre à ton histoire ?
Vas-y. C'est Conversation.
Écoute, c'est un excellent titre, Conversation. C'est Claudel a écrit Conversation dans le Loir-et-Cher. Mais toi, tu as pris Conversation tout court, c'est parfait. Et on t'écoute.
Bonjour, je suis un crayon à papier. Vous êtes bien une gomme ? Oui, mais je suis pressée. J'allais rejoindre mes amis, l'effaceur et les Tipex pour la fête annuelle du blanc. C'est dommage, parce que j'aurais besoin d'un peu d'aide. Voyez-vous, votre jeune collègue, la petite gomme qui est censée orner mon derrière, vient tout juste de démissionner. J'aurais besoin de votre assistance pour effacer quelques fautes. Je n'ai pas envie de perdre mon temps avec un illettré de votre sorte. Même si je vous paye ? Ah, si vous insistez. Eh bien, allons-y. Commençons par mes fautes, d'accord. Aïe, je suis sensible, que croyez-vous ? Ces terribles fautes me blessent au plus profond de mon âme. C'est parce que vous n'êtes pas bien éduqué. Moi, dès ma jeunesse, à l'usine, on m'a appris à dégommer, à mettre la gomme. Le tout, c'est d'avoir bonne mine, sinon on se fait tailler. Bien sûr, vous pensez que je vais vous croire. Je suis une gomme de collection, moi, très rare, unique au monde. Pas un de ces stupides crayons à la gomme. Tant pis, nous ne nous entendrons pas. Je trouverai une aide auprès d'un dictionnaire.
Voilà, il manque juste la boule de gomme.
Exactement, oui.
Voilà, en fer et boule de gomme.
Tu aimes bien lire toi aussi, Elsa ?
Oui.
Et tu lis quoi, là, ces jours-ci ?
Il n'y a pas très longtemps, j'ai lu Eragon.
Oui.
Il y a même eu un film qui a été tiré de ça.
Oui.
C'est vrai, ça raconte quoi ?
Je ne sais plus. Il y a des dragons.
Oui.
Il y a des dragons.
Ah ouais ?
Il y a des œufs de dragons.
Ah oui ? Et ça fait peur ?
Non.
Non, mais elle est très courageuse. Parce que moi, j'ai eu peur tout le temps.
Bonjour, Mado.
Bonjour.
Bonjour, Elliot.
Bonjour.
Alors vous deux, vous étiez dans le groupe d'Eva Almassi. Elle est sympa, Eva ?
Oui, très sympa.
Elle vous a fait rire ?
Un peu, oui, quand même.
Un peu quand même. Bon.
Après, quand j'ai envoyé les photos.
Ah, voilà, c'est ça, c'est ça. Et alors, à quoi les avez-vous fait jouer, vous ?
C'était les états de choses.
Oui.
Donc, il fallait choisir son identité d'abord, un objet, et puis après, écrire son autobiographie. Nous avons mis au vote, nous, les textes, donc, du premier tour.
Oui.
Et ça a été gagné à l'unanimité par Elliot.
Oui.
Et on a fait un deuxième tour de réponses.
Ah.
Et à ce moment-là, on a revoté. Je dois dire, c'était de très grands moments au moment du vote. Et tout le monde voulait faire du comptage de vote, de dépouillement.
Ah bon, oui, ah oui.
Oui. Exactement. Et Mado a à la fois gagné le droit de dépouiller, mais ensuite elle a gagné parmi toutes les réponses.
Ah, c'était un beau moment de démocratie, alors.
Ouais.
Ça fait la Corse.
C'est pas prêt de se reproduire.
Eliott, ça fait longtemps que tu participes à l'atelier d'écriture de Mylène Bricout ?
Non, c'est la première fois que j'y vais.
Et alors ? Impression ?
Bah, c'est sympa.
C'est sympa ?
Ouais, on s'amuse bien, on fait plein de textes.
Voilà. Et grâce à elle, tu es venue au Papou ?
Oui.
Est-ce aussi. Que tu écoutes les Papous maintenant ?
Non.
L'honnêteté voilà. Paye.
Il y a des questions qu'il ne faut pas poser.
C'est bien. Ah non, mais moi j'apprécie la sincérité. Et tu es en quelle classe, Elliot ?
Je suis en quatrième.
Quatrième, et tu as ?
13 ans aussi.
13 ans aussi. Alors on écoute l'objet, puisque c'est lui qui détermine la réponse de Mado. Tu as choisi quoi ?
Une statue. Je suis une statue. Je m'appelle Rousseau et apparemment, je représente un homme s'appelant Rousseau. J'ai eu 150 ans en mars. Je vais vous raconter ma vie triste et agréable. Ne vous trompez pas, ma vie n'est pas ce que vous croyez. Commençons. Je suis né quand Papa Marteau a cassé Maman Pierre. Puis extrait de Maman, on me sculpta. Suis désagréable mais rapide. Attention, le passage qui suit est le deuxième plus horrible de ma vie. Je fus kidnappé par des hommes en bleu qui me mirent dans une charrette. J'eus si peur que je m'évanouis. Quand je me réveillais et je vis là où j'étais, sur une fontaine. Sur mon îlot de pierre, je désespérais. Qui me sauverait ? Me résignant, je regardais autour de moi. Des gens me regardaient, puis, Oubliant ma peur, je sentis la fierté m'envahir d'être l'objet de l'attention de tous ces gens. Puis j'entendis un ploc. Je sentis quelque chose dégouliner. Un pigeon venait de se lâcher sur moi. Là, vous venez de découvrir mon quotidien pour les 150 ans à venir, malgré quelques événements. Je vis des guerres, des meurtres, des amoureux aussi, des amis. Je vis l'évolution de ma ville jusqu'à maintenant. D'ailleurs, je pense que de nos jours, plus rien n'est respecté. La preuve, l'autre jour, un clochard m'a uriné dessus.
Oh non.
Quelle horreur. Quand j'y pense. Pendant que j'écris ces mots, il pleut. J'entends un bruit énorme et sens un choc. Puis, comme au ralenti, je me sentis tomber et je vis, là, la foutue Nissan qui m'a tué. Je fus fracassé par la chute. Je vis ma vie défiler. Les éboueurs venant me laver, les vieux qui se disputaient, les enfants tapageurs, puis ma naissance. Et tout fut noir. Ma conscience qui s'échappait réussit néanmoins à casser cette voiture et enfin je partis me réincarner en gravier. Vie sympathique quand on n'est pas écrasé par des pieds sales ou pas. Mais bon, au revoir. Je prends ma retraite.
Ah ouais, effectivement, il y a un moment où il faut, hein, parce que... Donc c'est une grosse pierre qui est devenue une sculpture et qui finit en gravier, c'est un joli parcours quand même, non?
Oui, est... oui, oui, j'aurais bien aimé avoir le même.
c'est très bon pour Rousseau, parce que les promenades, ça le connaît quand même, ben, Jean-Jacques
bien sûr,
Rousseau.
Bien
donc
sûr.
Le gravier, c'est parfait.
Et donc le texte d'Eliot a été choisi à l'unanimité?
Absolument.
Absolument.
Démocratiquement.
Et tout le monde a écrit une réponse, dont Mado. Et c'est ta réponse, Mado, qui a été choisie.
Oui.
Et alors, tu lui fais la réponse de qui? C'est toi, Mado, qui lui parle ou c'est un autre objet?
Non, non, c'est une personne qui est dans l'histoire. C'est le clochard, justement, qui lui a revenu dessus.
Oui.
Et qui, qui lui, n'apprécie pas du tout la statue.
Ah, il ne l'aime pas.
Non.
Bah, c'est pour ça qu'il a... Oui, on comprend mieux. Vas-y.
Radin, ils sont tous radins. Ça fait longtemps que j'habite là. Là, c'est le coin entre la rue des Paumés et la place où il y a installé la statue. Ah, cette statue. Personne ne la regarde, mais pourtant elle fait sa fière. Depuis longtemps que j'avais envie de lui faire ça. Elle aurait compris qu'elle n'est pas super connue, mais simplement de la pierre taillée, couverte de fientes de pigeons. Alors aujourd'hui, je me suis dit, c'est le grand jour. Je suis allée vers elle. J'ai ouvert mon pantalon et je me suis lâchée, comme les pigeons. Vous allez peut-être pas y croire, mais c'est après ça qu'une voiture a déboulé et l'a détruite. Elle l'a détruite! J'étais tellement content que j'ai couru vers l'accident. Sans mon pantalon d'ailleurs. Et puis c'est là qu'elle a commencé à me manquer terriblement.
Ah, oh, bravo à tous les deux!
Bravo.
Ouais, c'est très très joli. Et toi, Mado, tu aimes bien écrire?
Oui, oui, j'aime bien écrire.
Et tu veux en faire quelque chose dans ta vie ou juste le garder comme un plaisir?
Attends, j'ai vraiment pas... Je sais vraiment pas.
Tu as quel âge, toi, déjà?
13 ans.
13 ans. Et tu es en...
5e.
D'accord. C'est parfait. J'espère que vous allez les publier, Mylène Bricout, dans le journal du collège.
Bien sûr,
ces textes.
Bien sûr.
Ah,
bien
oui.
sûr, ça sera en ligne et ça sera également dans le journal. Et puis, on fera la publicité auprès des parents qui ne savent pas qu'ils ont des petits talents comme ça chez eux.
Oui,
qui ne voit que le mauvais côté des adolescents, hein. Mais en fait, il y en a des bons. Hein.
Maïna,
oui.
On est bien ici, non?
Oui.
On écoute très bien un peu de musique, non?
Ah oui.
Oui.
Et si on décidait là de faire une petite pause musicale, toi qui es au collège Georges Brassens, qu'est-ce que tu aimes écouter dans la cour de récré avec ton casque?
J'aime bien Avicii,
oui.
Par exemple Lay Me Down. Things get tough. Sometimes my knees can barely hold me up. I'm no fool, but it's safe. You gotta walk a mile to get out of my head. Going in, taste it up. Take a little bit and baby, don't you give up. Get your life, give a damn. You gotta make a move to show me where we can stay.
Des papous dans la tête, c'est sur France Culture.
Papou d'un jour, papou toujours.
Un lent mais sous l'art, un dieu.
Un lent mais sous l'art.
Un dieu.
Un dieu.
Je veux dire qu'il n'y a que Dieu qui est supérieur à l'art. Non, pardon, l'art est supérieur à Dieu.
Le lent et l'ENT.
Oui.
Ah, la raison d'un cabillaud ou d'un macro, au choix.
Ah, la raison d'un cabillaud, c'est pas mal.
Moi, je crois que j'en ai un qui est un peu valable, c'est A, la mission de dire l'art à Dieu.
Ah, la mission de dire
l'art. Et on peut dire de l'art à Dio, parce que Dio, c'est Dieu en italien et ça respecte encore mieux.
Alors, on va passer à l'école alsacienne. On revient à l'école alsacienne.
Yo.
Puisqu'on alterne les écoles. Et là, c'est un groupe de premières. Il y avait des premières et des secondes. Et c'est vous qui l'animiez.
Mais vous
ne voyez
pas la différence.
Jouer. Quel âge vous avez, vous?
Moi, j'ai eu 16 ans en décembre.
Oui.
De même pour moi.
Ben voilà. Adèle et Louis ont le même âge, 16 ans. Ils sont en première, ils ne sont pas en retard. Hein. Donc, vous aviez un bon groupe, Jacques Jouet?
Ah ben, un si bon groupe que nous avons décidé d'un commun accord de faire une chose très difficile.
Ah!
C'est-à-dire de travailler sur les homophonies approximatives.
Oula! Ah oui, difficile. Vous aviez déjà joué à ça, Adèle?
Non, jamais.
Jamais? Et Louis?
Ah non, j'étais impressionné hein, sur le coup.
Par lui, il est très impressionnant, oui. Jacques Jouet. Il fait peur même parfois. Mais tu as compris, comment il a expliqué les choses, Jacques Jouet?
Ah ben, j'ai aucun souvenir d'avoir expliqué les choses.
On a compris par nous-mêmes.
Il nous avait donné...
Ah, trop fort.
Il nous avait donné l'exemple de, justement, homophonie.
Oui.
De l'écrire d'une différente manière. Et là, ça donnait l'homme aux phonies.
Ah,
et c'est comme ça qu'on a compris. Enfin, moi, personnellement, c'est comme ça que j'ai compris.
Oui. Ça me rappelle quelque chose.
Maintenant. Oui, moi aussi.
Avant de se lancer dans le récit homophonique, on a commencé par faire une série d'essais. Simplement de l'homophonie.
Ah, d'accord.
Donc chacun a donné à peu près, je ne sais pas, 4, 5, 6 homophonies.
Ouais, une seule pour moi.
Alors, je leur ai proposé de travailler sur l'énoncé « à la maison de la radio ».
Oui.
Ou « à la maison de la radio ».
Oui.
Enfin, il s'agissait de bien comprendre qu'au pied de la Tour Eiffel n'était pas une très bonne homophonie, même approximative, à la maison de la radio. Et ça, on a compris très vite.
Ça t'a paru facile?
Eh bien, au début, c'est vrai que ce n'est pas habituel de faire ce genre de travail, mais... Mais après, quand à force d'en faire,
ça vient
et c'est plus facile déjà et c'est amusant.
Voilà.
Et bien ensuite, nos amis ont écrit leur histoire.
Mais alors, qui devait être une chaîne d'homophonie?
Alors, ce qui était obligatoire, c'est le début. Donc, à la maison de la radio, c'est le début de l'histoire. Et puis, une homophonie finale.
D'accord, pas d'intermédiaire.
Eh bien, dans les deux énergumènes qui sont là, il y a un récit avec intermédiaire.
Ah.
Mais est-ce que j'ai raison de l'annoncer? Peut-être pas.
Ah bah des fois, on les voit pas toujours passer, hein, les homophonies. On va
alors, laquelle demander... des deux? Laquelle des deux, maintenant?
On va demander à Minet s'il les voit passer à l'écoute. Oui, Louis.
Honneur aux filles, hein, pour le temps.
C'est trop aimable à toi, Louis.
Il n'y a pas de problème.
Oh, il y a une ambiance ici.
À la maison de la radio. Grand silence. Un battement d'ailes, un soupir, le froissement furtif d'une chemise. Tout le monde attend. Il a chaud, il suffoque, il tousse, se retourne, rebondit sur sa chaise grinçante. Tous les regards impatients sont posés sur lui. Son esprit bouillonne, s'élève, court, vole et voltige, mais rien. Aucun mot ne sort de sa bouche. Tout le monde attend. Que dire? Que faire? Je ne trouve rien. Je n'ai plus de talent. Je ne suis plus un artiste des mots et pourtant... Tout le monde attend. L'antenne est branchée. Je vais me faire incendier, pense-t-il tremblant. C'est tout son corps maintenant qui frémit. Ses lèvres remuent en vain. Ses mains s'agitent. Sa gorge est sèche. Tout le monde attend. La tension est insoutenable. Le climat est pesant. L'homme va s'évanouir. Il se dressa sur ses jambes flageolantes, vacilla, se leva presque. Il alla, mais son art dit « Oh ».
À la maison de la radio, il a là, mais son art dit haut. Oh. Alors moi, je n'ai pas vu passer l'intermédiaire, il y en avait une?
Non.
Eh bien, il n'y en avait pas.
Il n'y en avait pas.
Ah, voilà, au piégé, Jacques Jouet.
J'en ai vu passer trois au moins.
Minet était tendu, j'espérais la voir.
Si j'avais su, j'aurais dormi.
Oh, mais c'est très très bien, très fort. Bravo, Adèle.
Ah oui, un beau texte sur le silence, en plus, pour la radio.
Magnifique.
On attend, on attend ce qui est dit, et il y a simplement ce son haut.
Très, très beau. Très beau. Ah, je ne comprends pas Louis, parce qu'il est super fort, son texte.
Il faut passer après,
c'est
maintenant,
pas
Louis.
C'est pas facile de passer en seconde.
Ah, mais moi, c'est nul par rapport à...
Ah, non, il ne faut jamais dire ça.
C'est beaucoup moins...
Fort compliments.
On va dire les homophonies.
Alors, Louis... C'est le même genre d'histoire ou pas du tout? Parce que des fois, la consigne de départ imprime un sens à l'histoire qui va suivre, imprime une direction.
Non, ça n'a pas trop le même sens. Surtout, mon histoire, elle n'a peut-être pas trop de sens.
Ah bon? Oui, mais le nonsense, ça existe. Hein, c'est très valeureux, le nonsense.
Oui. Donc, le titre, c'est « À la maison de la radio ». C'est original par rapport au thème. Donc, je me lance.
Ouais.
À la maison de la radio, au fond de l'immense salle blanche éclairée d'une lumière aveuglante, se trouvait un couloir ténébreux, profond et terrifiant. Toutes les personnes qui y entraient, qu'elles soient rousses, chauves, habillées avec une chemise à points verts ou même à points jaunes, en ressortaient toujours changées. Certains se pensaient possédés par des rats plus méchants les uns que les autres et s'écriaient « Rala, mes os ont des là, des rats idiots ». Ce qui pour
ça
les touristes. Miné,
ça sent l'intermédiaire. Hein, on va
oui.
Ah bon, j'ai pas vu passer.
Ce qui pour les touristes qui les entendaient.
Reprends l'intermédiaire.
Hala, mes os ont des là, des rats idiots. Ce qui pour les touristes qui les entendaient ne voulait absolument rien dire. Mais alors rien.
Ah bah voilà, c'est bien ce qui me semblait.
Voilà.
Comment tu arrives à penser à des choses pareilles?
Je devais être en forme. Alors voilà. Ce qui pour les touristes qui les entendaient ne voulait absolument rien dire. Mais alors rien du tout. Ces hommes et femmes, venus de ce couloir sombre, étaient dès lors devenus des fous. Mais un jour, pendant un mois de décembre qui avait été encore plus dévastateur pour les personnes qui étaient venues écouter Radio France, un grand médecin de renommée locale, qui adorait les radis, pensa trouver le remède à cette maladie de plus en plus redoutée. Il demanda donc à son assistante, qui au passage avait une chemise à points verts, de ramener, d'ici 24 heures, une personne infectée par ce virus nommé « Alarme au son de la radio 75016 ».
Sans étude.
Alarme au son de la radio. Bien, alors, il faut le dire plus vite. Alarme au son de la radio.
Alarme au son de la radio. 75016. Le lendemain, comme il en était prévu, un malade arriva et c'est à ce moment précis, pendant cette minute historique, durant cette seconde interminable, lorsque le regard apeuré du médecin croisa le regard froid du patient, que le périple commença. D'abord attiré par les dizaines de plaques rouges vives qui envahissaient les alentours du bidon du patient, le grand médecin détecta de manière minutieuse, grâce à ses yeux vifs et son sens inégalable de l'observation, une gigantesque tache rose fluo, qui ressemblait de manière flagrante à un radis, au niveau de la rate du pauvre patient. C'est alors qu'il cria à son assistante, d'un air normal, « Ah, là, mes sons de la rate, yo !»
Ah là là, ah oui.
Toujours ce yo alsacien qui...
Oui, il est sympathique, oui.
L'assistante et maîtresse du médecin depuis quelques jours obéit instantanément. Elle prit une sonde en forme de radis et l'envoya dans le ventre depuis le derrière du patient, qui au passage n'avait pas forcément apprécié la brutalité du geste.
Ça fait un parcours.
Quelques minutes plus tard, la sonde apporta des résultats que le médecin espérait fiables. Une anomalie au niveau de la rate avait bel et bien été détectée, mais à ce jour, aucun antidote existait. Mais comme ceci est une histoire qui ne possède aucune logique, le grand savant trouva miraculeusement un remède. Cet antidote poussait dans des marais qui se situaient dans la région du Poitou-Charentes, alors méconnue du peuple français. Il y partit plusieurs semaines, bravant les dangers, tel un Hercule affrontant le lion de Némée, tel un Ulysse traversant les mers pour rejoindre sa Grèce bien-aimée. Au bout d'un certain temps, fatigué, exténué par ce périple, blessé de toutes parts, après avoir presque suffoqué aux plus grandes créatures existantes aux alentours de Poitiers, le médecin aux cheveux roux et bouclés découvrit, alarmé, sondé, des radis d'eau.
Très très beau. Oui. Patrice Minet.
Oui.
À
j'ai rien vu passer.
À ce moment de cette rencontre, j'aimerais vous demander de résumer le texte de Louis. Vous pourriez.
Oui. Je peux vous le résumer. Oui, je peux le faire.
Ça c'est trop fort. Alors, voilà. Bon, vous les trouvez comment, vos élèves, Lucille? Mais je crois qu'ils ne sont pas dans votre classe. Si.
Non, ils ne sont pas
et
dans ma
classe. Vous les connaissez quand même.
Et non, moi, je suis impressionnée parce qu'on a vu qu'on n'a pas assisté aux ateliers, en fait.
Vous étiez donc, interdits d'atelier.
On était
tous.
Interdits d'accès, voilà. Ouais, donc, on nous a chassés. Et je ne savais pas du tout ce qu'ils avaient écrit. Ouais. Et donc, Non, ils ont écrit deux textes très différents et très beaux tous les deux, très originaux dans leur genre.
Et donc, en combien de temps à peu près, Jacques Jouet ? Parce que vous aviez deux heures, mais après, il fallait décider, choisir les textes. Donc, l'écriture, le temps d'écriture, c'était quoi ?
Oui, trois quarts d'heure.
Trois quarts d'heure pour écrire. Bah, bravo. C'est un petit peu, vous êtes mûr pour venir au Papou. Hein.
Ouais.
Quand vous voulez.
Mado, tu aimes bien la musique ?
Oui, j'aime bien.
Qu'est-ce que tu écoutes, Sora ?
J'aime bien la musique, mais j'écoute pas vraiment beaucoup de musique.
Non, mais tu es rare, tu sais. Moi, je vois plein de gens de ton âge qui ont toujours un casque vissé sur les oreilles, dans le métro, partout.
J'ai pas de casque, donc je sais pas.
Non, alors on va se cotiser.
Elle a pas d'oreille non plus.
Qu'est-ce que tu aimerais écouter, là, dans les Papous, comme chanson ?
Eh bien, on a trouvé une chanson des Beatles.
Ouais, tous les quatre, tout le groupe Georges Brassens.
Oui, oui.
Laquelle ?
Et Hello Goodbye.
Eh ben on l'écoute.
D'accord. Sur France Culture, Papou un jour, Papou toujours.
Et il faut essayer de trouver d'abord une petite phrase qui associe les trois mots que vous aurez choisis.
Une miséricorde, c'est quand quelqu'un t'accorde quelque chose qui est de l'ordre de la pitié. Il te donne sa miséricorde.
Tu as ton idée ? Très bien. Allez, c'est parti.
Ça y est, vous avez tous écrit. Vous passez votre feuille à la personne à gauche.
Et est-ce que c'est avec les mots australopithèques et tout ?
J'ai Papou dans la tête !
Oh là là, mais qu'est-ce que tu veux que je mette après ça?
Mais c'est à chaque fois lui qui m'énerve.
Mais oui, mais tu mets des phrases n'importe comment. Mais des phrases qui ont un rapport avec la poupée.
Quelle joie de mourir noyée, entourée de ces magnifiques requins. En se prenant dans un filet de pêche, je vais te noyer, petit poisson.
Je t'aime, poupée, sale pervers. Pas de jugement hâtif. Tu ne me connais pas, ou pas, ou si, je crois pas.
Alors, avec vous, Patrice Delbourg, il y avait une dizaine d'élèves du lycée Sugère, oui, de Saint-Denis, hein, puisqu'il y avait deux groupes du lycée Sugère, dont celui avec lequel vous avez travaillé. Ça s'est bien passé ?
Parfaitement. Oui. C'était un groupe très, très soudé, très homogène.
Comme une équipe de foot ?
Oh bah, je les sens. Il y avait une ferveur, il y avait presque une religiosité chez eux qui m'a beaucoup émue d'entrée.
Alors moi, je suis passée dans l'atelier comme ça, très discrètement. Et quand j'ai regardé votre groupe, j'ai trouvé qu'il était extrêmement calme. Je me suis dit, ils sont concentrés.
On n'a pas pu faire de son d'ailleurs sur le groupe.
C'est
ce qui est
que
bizarre,
Anne
puisque
m'a dit...
c'est quand même un collège, un lycée qui fait de l'image et du son.
Oui,
et là,
absolument.
Pas possible de faire... Ils étaient tellement concentrés qu'on aurait entendu voler un hanneton.
Alors dites-moi, Cindy, puisque vous êtes l'heureuse élue du groupe avec le texte que vous avez écrit, vous étiez consciente de cette qualité de silence qui régnait sur votre travail à tous ?
Très, c'était pratiquement... On avait eu une heure entière, je crois, pour écrire nos textes. C'était silencieux, du début à la fin.
Mais parce que vous étiez concentrée ou parce que Patrice Delbeau vous regardait méchamment ?
On était très concentrés.
Oui. Tu as aimé ce moment ? Qu'est-ce que tu en as retiré ?
Oui, j'ai beaucoup aimé parce que j'aime beaucoup écrire chez moi et c'était pour ça que j'avais décidé de venir. Donc c'était sur la base du volontariat.
Oui, absolument. Oui. Alors qu'est-ce qu'il a imposé comme consigne, Patrice Delbourg ?
On était une dizaine de personnes et on devait chacun notre tour tirer un mot. Et du coup, avec ces 10 mots, à la fin, on a décidé de rajouter encore un mot parce que c'était des mots un peu compliqués en fait.
Oui.
Et avec ces 10 mots, on devait écrire un texte.
D'accord. Mais donc c'est Patrice Delbourg ? C'est vous qui aviez choisi les 10 mots.
J'avais fait des défis, je suis arrivé comme un homme sandwich, j'avais des petits papiers partout.
Oui.
Je les ai mis dans mon chapeau et puis je leur ai fait tirer. Ils avaient le droit d'en refuser un.
Oui.
Et finalement, 10 mots pour une histoire. Comme c'était un groupe assez rebelle, on en a fait 11. On en a fait 11 pour montrer quand même qu'on pouvait.
Ouais, pas les ouais, choses qu'on n'obéit pas toujours voilà. Comme ça. Alors, c'était quoi les mots que j'aviez mis oui.
Cindy, vous allez nous les lire, vous les
oui.
mots.
Béton, oui. Western, hangar, tango, autostoppeur, chaviré, talon aiguille, nénuphar, berlingot, Peugeot, massacré.
Et le 11e, c'était lequel parmi ceux-là ?
On ne peut pas dire massacré, on va dire hangar.
Hangar. Bon, c'était un bon choix de mots parce qu'il y a des verbes, il y a un personnage, hein, l'autostoppeur, il y a un élément de vêtement, les talons aiguilles. Qu'est-ce qui vous a donné comme ça l'inspiration pour écrire, Cindy ?
Eh bien, en fait, on avait fait une sortie une semaine avant avec notre classe et on avait vu un film et c'était un thème qui aller avec ces mots, et j'ai choisi de parler de ça.
C'est vous qui étiez avec eux, Juliette ? Donc Juliette, c'est la professeure hein, de Cindy, c'est
oui,
ça,
oui,
en français ?
On les a emmenés voir un film dans le cadre d'un dispositif lycéen au cinéma. Donc,
d'accord.
Voilà. On est allés au cinéma à l'écran à Saint-Denis.
Et donc, est-ce que le choix du texte de Cindy a été difficile à faire ? Parce que je suppose que vous aviez, Patrice, des gens très brillants dans le groupe, donc c'était pas facile. Si.
J'avais un peloton très talentueux. Ils sont tous arrivés quasiment ex aequo, Maïmouna, Melric, Ashraf, Hicham, Salsabil, Inès. Et finalement, bon, le charme de la Baltique a joué, et c'est ma voix, et donc j'ai fait basculer effectivement le culbuto vers les pays baltes,
voilà,
Tallinn, Riga, Vilnius.
Parce que Cindy s'appelle Cindy Baltique.
Voilà.
Voilà, c'est un joli nom d'ailleurs. Oui. Alors on
c'est
écoute.
C'est un pseudo peut-être, non ?
Je sais pas. C'est un pseudo non, déjà.
Ça se prononce pas comme ça en fait.
Ah bon ?
Ça se prononce Baltich.
Baltich, c'est de quelle origine ?
Bosniaque.
Ah d'accord. Ah bah alors oui, mais alors il faut tout recommencer.
On va refaire un tirage.
C'est pas grave, tout le monde m'appelle Baltique, de toute façon.
Allez, on écoute le texte de Cindy. Tu lui as donné un titre ?
Oui, El Shavir.
Oui, et j'ai l'impression, ben, tu es à côté de moi, donc je vois le texte, tu as fait un poème.
Oui.
Ça c'est très bien, très fort.
Ils dansent le tango dans un hangar. Ils s'y sont rendus avec une Peugeot. Elle portait une robe au motif nénuphar, l'homme chavire. Elle danse du haut de ses talons aiguilles, ses pieds frappent contre le sol en béton. Il pense qu'elle est belle cette fille, puis lève le menton. La femme chavire. Cet homme aime les westerns, il admire ce genre de cinéma. Plutôt alors qu'il roule, un homme les cerne, c'était un autostoppeur qui les arrêta. L'homme tire. La fiction rejoint la réalité, il tue sans compter. Son tout dernier cadeau, elle s'en souvient, était une boîte de berlingots. La femme tire. Mais désormais, c'est l'heure du massacre. Ils arrivent par dizaines, tirent par centaines. Leur peau est toute rougeâtre. Bonnie et Clyde chavirent.
Ah voilà, c'est eux. La plupart des textes pour les trois écoles sont assez graves. Hein.
Oui. Là, c'est le haïku bosniaque. Ou Bodni Ankaïd rejoint l'attentat de Sarajevo.
Alors, on avait moins de gravité avec le groupe de Minet. On était plus dans le fantastique.
On était plus dans la joie, oui. Certainement.
Oui, dans le fantastique,
oui,
quand même.
Oui, la réponse amuse.
T'écoutes de la musique, toi, Elliot ?
Oui.
Quel genre de musique tu écoutes ?
Moi, j'écoute un peu n'importe quoi.
N'importe quoi, tu veux dire du bon, du pas bon ou...
Non, c'est n'importe quoi.
Du
je
classique
peux écouter
aussi.
Du classique ou du rock, ou même du rap quand j'ai envie.
Ah ouais ? Et là, tu aurais envie d'écouter quoi ?
On a choisi ensemble Queen, We Are The Champion. On avait choisi celle-là.
Oh bah ça, c'est un choix formidable. Moi, j'adore Queen. C'est pas très de votre génération, c'est curieux.
Non, c'est plutôt la génération de vos grands-pères.
I've paid my dues time after time. I've done my sentence but committed no crime. And bad mistakes I've made a few. My shells and kicked in my face, but I've come through.
And I need to go on, 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 on.
bows at my curtain calls. You brought me fame and fortune and everything that goes with it. I thank you all, but it's been no bed of roses, no pleasure cruise. I consider it a challenge before the whole human.
Et on passe le relais, le témoin à Clara et Marcel et Patrick. Alors, ça s'est bien passé cet après-midi du 28 novembre avec vous, Patrick.
Oui, comme vous voyez, ils sont là.
Donc vous aviez aussi des élèves de troisième.
De troisième.
Qu'est-ce qu'il avait donné comme consigne, Patrick Beignet?
Nous avons joué aux 10 mots.
Oui.
Comme la plupart des groupes, finalement.
C'est vrai, finalement, c'est un très bon jeu papou qui s'exporte très bien.
Comme ils étaient 10. C'était assez simple.
Un mot par élève.
Ils n'étaient pas assez rebelles pour que je songe à leur donner un
onzième. Pas de joker. De
non. Ouais. Et j'ai tout de suite été très... Le groupe m'a beaucoup surpris. Hein. Ça fonctionnait très bien.
Oui.
Mais, par exemple, le choix des mots, très vite, m'a paru curieux. Et je crois leur a paru à eux-mêmes un peu curieux, si je me souviens bien.
C'est-à-dire qu'ils ne se sont pas concertés, ils ont donné un mot comme ça, il n'y avait pas d'enchaînement d'idées.
Non, mais on sentait, alors, j'avais pas compris que vous deux vous formiez un sous-groupe, disons, mais on sentait bien qu'il y avait des ententes entre certains d'entre eux, que ça pouvait rebondir. Mais j'avais dit de ne pas hésiter à employer des mots dont ils ne savaient pas le sens.
Ah,
parce que ça pourrait être l'occasion de les apprendre. Non, mais j'ai pas de rester dans l'ignorance jusqu'au bout. Alors, ça entraîne, je sais pas si c'est à cause de cela, mais il y a une. Comment?
Il y a soporifique. Il y a soporifique.
Je me suis tout de suite senti visé par le soporifique. Autrement, je vous les lis, ces 10 mots, qui vont donc de choses très simples à des choses de plus en plus compliquées. Il y a peut-être eu un mouvement de surenchère quand ça tournait. Ça commence par piste.
Piste, simple.
Oui. Arbre.
Oui.
Fragment.
Ah.
Hein, c'est déjà plus élaboré. Furtif.
Oui.
Et là, c'est un mot qui a posé problème parce que personne n'était très sûr de l'emploi du mot furtif.
Ah, et alors c'est vous qui avez expliqué?
J'ai essayé d'expliquer, mais j'ai dû très mal expliquer. L'ambiguïté est restée jusqu'au bout. Savoir, je sais pas, qu'est-ce qui est furtif et quel type d'emploi du mot. Bon. Soporifique. Station. Symphonie, mot qui a suscité des débats, tout le monde n'en voulait pas. On a dû écarter un ou deux mots d'ailleurs.
Vous vouliez bien symphonie, vous?
Oui, c'est un mot qui ça me dérangeait pas.
Ouais.
Triomphe.
C'est pas l'enthousiasme quand même. Quand ça me dérange pas.
Triomphe ne dérangeait pas Clara.
Non plus.
Ouais. Quel mot avais-tu donné?
Moi, c'était soporifique.
Soporifique.
Ah d'accord, donc tu connaissais le sens ou pas alors?
Oui, mais...
Oui.
Et les deux derniers mots, c'était Wagner.
Bien sûr.
Et Apocalypse.
Ah oui,
qui
ah
vont
oui,
assez
oui,
bien
ça
ensemble.
Va crescendo. Oui, oui, oui.
Et soporifique aussi.
Et Marcel avait apporté quel mot?
Triomphe.
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 Donc il y avait un côté, on pourrait presque dire, un peu clinquant dans certains mots.
Sophistiqué.
Mais aussi des choses très simples. Donc ça créait des mariages. Il y a eu toutes sortes de rythmes de création. Il y en a qui s'en sont sortis assez vite et d'autres qui
qui ont travaillé longtemps.
Il y a eu une version, si je puis dire, en verre, des verres très longs.
Et, de 15 pieds.
Quasiment, oui, mais ils ne prétendaient pas qu'il n'y en avait que 12. Il y avait une sorte de soufflet pic. Enfin, il y avait une grande variété, mais en même temps, bon, je crois qu'on va le constater à la lecture, ça rejoint le constat que vous faisiez tout à l'heure, il y a une sorte de gravité, même de tragique.
Oui.
Ah oui, ils n'ont pas l'air comme ça, mais ils ont, dès qu'on leur donne des mots...
Des rigolos, Clara et Marcel, si.
Mais j'ai peur que ce soit ça, leur forme d'humour.
Non, pas du tout.
À qui a envie de commencer, Clara?
Il était dans mon jardin depuis ma naissance. C'était un bel arbre, un chêne, grand et magistral. J'avais passé tant d'après-midi soporifiques, couché au pied de son tronc immense, tant de soirées tièdes du mois d'août, qu'il représentait à mes yeux ma propre vie. Le matin, très tôt, trop tôt pour que personne ne puisse le voir, des oiseaux furtifs quittaient leur nid en une symphonie merveilleuse de petits cris et de battements d'ailes. Cet arbre, au pied duquel j'avais vécu mon enfance et bien plus encore. Je relisais cette lettre en boucle. J'aurais pu la réciter, mot par mot, ces mots qui me fendaient le cœur. Le 27 février, votre arbre sera abattu. Nous étions déjà le 26. Je savais que cela arriverait. Cela faisait une dizaine d'années qu'il penchait dangereusement et nous avions atteint la piste finale. Jamais je n'aurais pensé que cela m'affecterait autant. Mais cet arbre, en quelque sorte, c'était moi. J'avais passé toutes les stations de ma vie dans ce jardin. J'avais écouté des comptines, puis de la pop, et désormais, la musique qui m'obsédait était celle de Wagner. J'avais vieilli, et cet arbre emporterait avec lui des fragments de ma vie. La mort triompherait, et cet apocalypse était inévitable. Cet arbre, comme moi, tomberait du côté où il penchait.
Ça a été difficile de départager les textes.
Clara s'est imposée, pas personnellement, mais enfin, ça a été fait ça par des petits papiers.
Oui.
Et la première place de Clara a été évidente tout de suite. Pour le reste, c'était plus
partagé.
Plus partagé. J'ai beaucoup aimé les oiseaux furtifs.
Oui.
C'était pas le sens le plus immédiat, mais.
Non, mais on peut y penser quand même. Oui.
Et puis l'usage fait de Wagner est quand même tout à fait magistral.
Oui, absolument.
Accompagner la mort de l'arbre.
Le titre est là d'ailleurs.
Allez-y.
La nature a horreur de Wagner.
Ce n'est pas partagé par tout le monde. Alors, Marcel, tu étais aussi dans le groupe, donc.
C'est ça, oui, c'est ça.
Et tu as travaillé. Tu as mis combien de temps pour écrire ton histoire, à peu près?
Je crois que... Enfin, moi, j'ai mon idée, elle m'est venue que très tard.
Oui.
Donc, non, mais vraiment, on a tous...
T'as réfléchi.
On a tous galéré, on s'est tous concertés, on s'est un peu entraînés.
Ah.
Et puis, au final, elle est venue. Une idée.
Je crois bien que c'est Marcel qui, au bout de trois quarts d'heure, a dit « J'ai déjà une page et demie et j'ai mis que deux mots. »
J'avais fait la moitié d'une page, j'avais que deux mots et j'étais...
Mais c'est ce qui est très difficile dans le jeu des 10 mots pour vous tous, pour tous ceux qui ont joué à ce jeu. C'est qu'il faut écrire une histoire courte et mettre tous les mots imposés, vous voyez. Alors, il y a un titre à l'histoire.
La musique du noir.
Musique du noir. Ah bah ça va être rigolo.
J'ai l'habitude de rêver. Mes rêves ne changent pas, mais évoluent. À l'âge de 5 ans, mon rêve a commencé. Dans mon premier rêve, je me trouve au pied d'un arbre, lisant le livre que mon père aime tant, Le Rouge et le Noir. Je ne sais pourtant pas lire. Je ne pourrai jamais lire, d'ailleurs. Ma vision m'a lâché dès ma naissance, et les beautés de la vie m'échapperont toujours. Malgré mes 5 petites années, je le sais déjà. Je suis différent. En me réveillant... Je me mets à pleurer. Je me sens seul, dans le sombre total. Je ne vois pas la lumière. On ne me le permet pas. C'est l'apocalypse du noir. Le jour de mes 7 ans, je me couche le sourire aux lèvres. Je viens d'atteindre l'âge de raison, dit-on. Je me sens grand. Je m'endors sur cette pensée. Et me revoilà de nouveau au pied de l'arbre. J'entends des pas furtifs derrière moi. Une voix se glisse dans le vent. Elle me parle. Je l'écoute. Je me présente. Mon nom est Richard Wagner, dit-elle. « Connais-tu la musique, Henri ?» J'acquiesce et lui dis que je n'en écoute pas. Il me répond simplement « Écoute de la musique, tu aimeras ça, elle te marquera, te changera et tu grandiras. » Dans l'incompréhension totale, je lui fais un signe de tête, intimidé. Je me réveille perdu, encore une fois. Non pas parce que je ne vois pas, je ne comprends tout simplement pas ce que je viens de vivre. J'allume une station de radio pour voir ce que je trouve. Il n'y a rien qui me plaise. Je demande alors à ma mère de me faire écouter une musique. Elle ne comprend pas, mais agit. Elle me fait écouter une piste sur un disque de musique romantique. Je suis ému et je comprends. Je dois me mettre à la musique. Après une vie soporifique, je trouve enfin l'art qui va me stimuler.
Waouh !
Nous sommes en 2050. Je me nomme Henri Deltour. Et ce soir, j'ai partagé ma vie à Paris, au Théâtre du Châtelet, à travers ma première symphonie. C'est un triomphe. Je suis aveugle et musicien. De temps en temps, des fragments de mon rêve me reviennent et je me dis alors, merci Richard.
Ça aurait pu être un bon titre, merci Richard.
Ouais. Ouais, c'est pas si triste que ça au final.
Non, bah non, 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 au contraire.
Ouais, c'est aussi un hommage à Richard.
Qu'est-ce qu'on peut dire en conclusion de ce qui s'est passé
terrible.
Cette journée-là en atelier et aujourd'hui au Papou, parce que c'était quand même Papou d'un jour, Papou toujours. Alors, est-ce qu'on garde le titre ? C'est terrible. Terrible. Ouais, pourquoi, Jean-Bernard Puy ?
La relève est là et pour nous, ça sent le sapin. Là. Moi, ce qui me terrifie maintenant, c'est que à leur âge, j'étais incapable de faire ça. J'étais dans un très bon lycée, avec très bonnes études, mais j'étais incapable de faire des textes de cette valeur, avec ce genre de trouvailles. Faire des homophonies, moi, dans les années 60.
Ah oui, mais toi, oui.
Moi, je parle pour moi. C'est pour ça que ça m'étonne.
Non, non, il y a un motif d'espoir, c'est qu'ils sont quand même bien meilleurs que nous.
Je suis tout à fait d'accord avec Patrice, c'est vrai que c'est très encourageant, et qu'on a envie de se retirer sur la pointe des pieds.
Et de les laisser tranquilles, écrire. Oui. Vous pensez ça, Patrice Delbourg?
Les textes sont graves et ça me fait plaisir. Parce que la joie n'a rien à voir avec le talent.
Des papous dans la tête, numéro spécial, papou d'un jour, papou toujours, c'est fini. Une émission proposée par Françoise Trossard avec Anne de Belchin et Pierre Mine, à télécharger sur France Culture, c'est le podcast, pendant un an, à la page des papous du 30 août, page sur laquelle vous pouvez déposer vos questions, remarques, suggestions, rubriques, commentaires. Et puis, pour tout savoir sur les activités des membres de notre petite bande, direction La Vie du Club et les livres des papous. Au revoir, tout de suite, c'est l'heure de votre rendez-vous avec Catherine Libert pour France Culture Papier. Quoi, quoi ?